auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance 88.4, nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle émission. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de nouvelle émission puisque la semaine dernière il y avait Pentecôte. Donc je reprends aujourd'hui avec un sujet qui est un peu spécifique, mais qui reste quand même d'actualité à l'heure où il y a bientôt les élections européennes. Un sujet qui porte sur la résistance française, et notamment sur un personnage que tout le monde connaît en France, mais dont on ne connaît pas toujours bien l'histoire, qui est le personnage de Jean Moulin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de Jean Moulin ce soir ? Tout simplement parce que hier, donc dimanche 26 mai, a pris fin une exposition justement sur Jean Moulin au Musée de la Résistance qui est situé à Lyon, celui de Lyon, le centre d'histoire et de recherche sur la résistance et la déportation, qui est situé avenue Berthelot dans les locaux, dans les anciens locaux de la Gestapo, enfin ce que la Gestapo habitait pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'occupation. On sait que Lyon a été une ville qui a été très touchée par la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment beaucoup de résistants, parmi lesquels Jean Moulin. Jean Moulin a habité à Lyon quelque temps, d'ailleurs même en dehors de l'exposition dont je vous parle. Il y a possibilité, lorsque l'on va au musée, au centre d'histoire et de la recherche sur la déportation lyonnais, de choisir des visites guidées à travers la ville de Lyon qui ont un rapport avec Jean Moulin, puisqu'on vous fait visiter souvent les itinéraires qu'il a pris dans la ville, les lieux où il habitait, etc. Dans le cadre de la préparation de l'exposition, le CHRD a beaucoup réfléchi à la manière dont il allait s'y prendre pour faire une exposition sur ce personnage, qui reste un personnage national malgré tout, puisqu'il est enterré au Panthéon depuis longtemps. Et notamment, il y a la famille de Jean Moulin, qui a prêté les objets, et notamment elle a fait un dépôt exceptionnel des vêtements de Jean Moulin. Une trentaine de pièces de vêtements lui ayant appartenu ont été données au musée. Une proposition bouleversante à plus d'un titre, parce qu'elle correspond à la poursuite au fil des générations de l'héritage transmis par les arrière-petits-cousins, qui ont hérité en fait du travail effectué par Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, qui s'était attachée à confier à différentes institutions les œuvres, les souvenirs, les archives ou les effets de son frère. Voilà. Donc il y a une tenue de sous-préfet, un manteau de sous-préfet, un ensemble de 9 vestes, 8 pantalons, 6 gilets, 4 manteaux, une queue de pie, une redingote, une paire de manchettes. Il paraît qu'il y a également une tenue de ski, ainsi qu'un pardessus qui sont exceptionnels et qui ont été d'ailleurs exposés à l'exposition Jean Moulin, les voies de la liberté. Il faut savoir que ces tenues seront toutes présentées cet été 2024 dans la continuité de l'exposition pour un événement qui pourrait célébrer la transformation de ce dépôt en un don à la ville de Lyon. Donc il va y avoir un événement cet été à bien suivre sur le site internet de Grand Lyon ou en se renseignant tout simplement au CHRD, où on peut nous renseigner sur ce qui va se passer cet été autour de la résistance lyonnaise et française, et à quelle occasion on aura la possibilité de voir ces pièces vestimentaires qui ont été prêtées pour l'instant par la famille de Jean Moulin. Donc Jean Moulin, c'est un homme très important. Pourquoi ? Parce que lorsque la France est occupée, le général de Gaulle part à Londres où il va créer le gouvernement de la France libre, qui au départ est un gouvernement qui est clandestin. Et Jean Moulin va l'y rejoindre et il va être nommé chef de la résistance en France, sur le territoire français. Donc Jean Moulin va rejoindre le général de Gaulle à Londres et ils vont s'y rencontrer. Voilà. Donc Jean Moulin est né à Béziers, il est disparu en 1943. Chaque épisode de sa vie a fait l'objet de multiples analyses de la part de générations d'historiens. Sa mémoire a pris une dimension nationale avec sa panthéonisation en 1964. Cette année 2023, le 80e anniversaire de son arrestation a été célébré par Emmanuel Macron lui-même, qui s'est déplacé à Lyon le 8 mai. Et d'ailleurs, tout le monde se souvient, tous les Lyonnais se souviennent de ce déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon. Il a visité de nombreux lieux de commémoration, des lieux très importants où la résistance française et a montré qu'elle était présente à cette époque-là, à une époque où on assassinait les gens, où on les emprisonnait et où on les torturait. Donc, on reprend sur l'histoire de Jean Moulin. Jean Moulin rejoint le général de Gaulle à Londres. En juin 1940, Jean Moulin a une première occasion, donc là j'en reviens au début de l'occupation. Jean Moulin est alors préfet. C'est un homme brillant qui a réussi sa carrière dans l'administration française. Il est alors préfet à Chartres. La ville a été bombardée et il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, on veut le convaincre de signer un faux document, un document qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Sur ce document, la Gestapo, l'Allemagne, les Allemands, veulent faire croire que des tirailleurs sénégalais ont attaqué des Français et qu'ils ont voulu les mettre à mort. Et donc, Jean Moulin se pose des tas de questions. Il l'a d'ailleurs relaté dans des écrits. À l'exposition est exposé le manuscrit en trois carnets que Jean Moulin a écrit, sur lequel il a consigné toutes ses mémoires de l'occupation, où il nous dit, il raconte ce qu'il voit, ce qu'il vit. Et il y a un dilemme qui se pose à lui, un dilemme qui peut se poser à beaucoup de hauts fonctionnaires, même à notre époque. Est-ce qu'il devait signer ou est-ce qu'il ne devait pas signer ? Ça, c'est très important dans la vie de Jean Moulin, ça donne un exemple. Parce que s'il signait, il signait quelque chose qui était faux. Ce qui remet en question, bien entendu, ce qui remet en question sa foi, et puis en même temps, parce que c'est quelqu'un de très religieux et de très chrétien, mais aussi parce que ça remet en question son engagement en tant que haut fonctionnaire, forcément, puisqu'il va, on lui demande de mentir et de signer quelque chose de faux. Et lui, en tant que représentant de l'administration française, il pense que son devoir de haut fonctionnaire, de fonctionnaire, est de ne pas signer. Et donc, à cette époque-là, c'est là que naît la légende, Jean Moulin se serait sectionné le cou pour pouvoir se suicider plutôt que de signer quelque chose de faux au nom de l'administration française. Ça n'a pas marché, il ne l'a pas fait, il s'en est sorti quand même. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un qui a des convictions qui sont fortes et qui sont mesurées à la hauteur de sa capacité à ne pas céder lorsqu'il sent qu'on lui demande d'aller contre l'intérêt général et contre l'éthique qui est immanquablement liée à sa vocation de fonctionnaire. Donc il ne se suicide pas et il refuse quand même de signer. Et il s'en sort. Quelque temps après, Jean Moulin, qui avait déjà par ailleurs montré qu'il s'intéressait à la résistance, va partir à Londres. Dans le manuscrit en trois carnets qui donnera Premier combat, publié aux éditions de Minuit en 1947, que j'invite chacun à lire en lisant en même temps d'autres livres qui sont très intéressants, qui ont été écrits à cette époque, comme L'étrange défaite de Marc Bloch, c'est un livre avec lequel j'ai fait connaissance également en allant au CHRD il y a quelques années. Un livre très intéressant et passionnant qui parle de la France telle qu'elle est et qui nous parle de nos défauts pour mieux qu'on les corrige et qu'on puisse faire mieux. Et bien un autre livre à lire, c'est bien entendu Les Mémoires du Général de Gaulle. Dans ses mémoires, il raconte tous ses souvenirs de la guerre de 14-18 jusqu'aux années 60. Donc on passe aussi sur toute l'expérience du général de Gaulle en tant que président de la République. Mais il y en a un notamment, il y a un ou deux livres qui notamment sont très intéressants. C'est ceux qui relatent la période du nazisme et de l'occupation de la France par l'Allemagne, où le général de Gaulle fait preuve de résistance et crée le gouvernement de la France libre. Et là, on n'a pas mieux en tant que témoignage de cette époque. Donc c'est bientôt le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Ça commence d'ailleurs bientôt, puisque ça commence le 1er juin. C'est important. Ce sont des références de livres que je conseille à mes auditeurs de lire s'ils veulent s'intéresser davantage à cette période. Je vais vous lire quand même un passage avant de passer au départ à Londres. Je vais vous lire un petit passage du manuscrit de Jean Moulin, parce que en fait c'était très émouvant à l'exposition. Il y avait des extraits de ses manuscrits, son manuscrit en trois carnets, avec son écriture, des choses qui étaient barrées. Donc je vous lis. Je sais qu'aujourd'hui je suis allée jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si ça recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus. Donc je vous lis un extrait donc de ce fameux manuscrit à partir duquel il y en avait trois. Il y avait trois carnets et où Jean Moulin parle de ses évoque sa mémoire de préfet. Ces trois carnets sont très émouvants, on les voit en vrai, avec l'écriture de Jean Moulin. Pour nos auditeurs qui auraient envie à écouter mon émission, d'aller voir ce carnet, je leur conseille très fortement d'aller sur le site du CHRD et de prendre d'ouvrir l'emplacement dédié à l'exposition et d'aller récupérer le dossier de presse qui est en ligne et de le lire parce que c'est vraiment intéressant. Et là, vous avez des images de ces extraits du manuscrit. Donc je vous lis l'extrait. Je sais qu'aujourd'hui je suis allée jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si ça recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus. Signer ou disparaître. C'est impossible. J'entends le pas régulier de sentinelles. Non seulement dans le couloir, mais aussi devant notre unique fenêtre. Donc je restitue, Jean Moulin est à la préfecture de Chartres. Il fait son travail de préfet. Et les Allemands lui ont demandé de signer quelque chose qui lui a pas plu, quelque chose qui est faux. On lui demande de dire qu'il y a eu une insurrection des tirailleurs sénégalais qui aurait tiré sur la population française. Pour, bien entendu, justifier les exactions contre ces gens et rendre la population française encore plus raciste. Si, pourtant, je ne peux pas signer. Je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n'a peut-être été conçue que par des sadiques en délire. Je ne peux pas. Voilà ce que disait Jean Moulin. Déjà, au début de la guerre, c'était alors en 1940, il est alors préfet. Donc, c'est là que Jean Moulin se rend compte. Alors, il en réchappe, il signe pas, hein, il a failli se suicider, faut pas avoir à signer de force. Et puis, par la force des choses, il finit par rejoindre Londres. À cette époque-là, quand on était résistant, on n'avait pas d'autre choix que d'aller rejoindre le général de Gaulle à Londres. Donc, le départ pour Londres. S'appuyant sur une carte faisant état des déplacements de Jean Moulin dans une France morcelée, la séquence dévoile les contacts et informations qu'il prend en 1940 et 1941 sur les noyaux de résistance avant son départ à Lisbonne puis à Londres, but de son voyage. Son objet phare, qui est montré à l'exposition et qui est très intéressant, c'est l'ordre de mission, rédigé par le général de Gaulle pour son délégué et désormais représentant en zone sud. Ce document, qui a été annoté de la main du général de Gaulle, précède de 2 jours l'ordre de mission militaire du 5 juin, connu sous le nom de mission Rex. Et je rappelle que Rex, qu'est-ce que ça veut dire en latin? Ça veut dire roi. On l'a d'ailleurs à plusieurs reprises dans le Requiem de Mozart. Rex. Et donc ça, c'est très important de le comprendre et de l'assimiler. Parce que, pourquoi ? Rex, c'est le peuple roi dans le... Je vous dévoile des morceaux choisis du Requiem de Mozart. Dans le Requiem, lorsque Mozart fait répéter à plusieurs reprises « Rex, Rex, Rex », c'est tout simplement... les chœurs disent ça à plusieurs reprises. Mozart, qui était un initié et qui d'ailleurs était franc-maçon, nous parle de quoi ? Il nous parle, le roi, c'est le peuple. Il fait croire qu'il parle de la vie de Jésus et du Nouveau Testament, et il restitue là toute son ampleur à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, et au message que le Nouveau Testament veut faire passer. Le Nouveau Testament s'adresse à tout un chacun et à tout individu, et essaye de faire comprendre à chaque individu qu'il est roi. Et le peuple est roi. C'est en fait la règle du RRRR, les 4 R. Roi des rois, des rois, des rois. En Afrique, le roi des rois, c'est le roi suprême qui dirige le peuple. Et le roi des rois, des rois, des rois, c'est le peuple lui-même. C'est le peuple qui, à l'infini et pour l'éternité, est roi, et donc maître de son propre destin, et donc politique avec un P majuscule. L'œuvre de Jésus, qui crée le Nouveau Testament, est finalement, s'il a existé, bien entendu, ne serait donc finalement qu'un simple traité de politique, qui vise à restituer et à donner à chacun toute son ampleur et toute l'importance qu'il revêt aux yeux de la nature. C'est très important de le comprendre. Et donc, Mozart l'a compris, il le reprend dans son Requiem, et donc il n'est pas étonnant que Jean Moulin, un des plus grands résistants qu'on ait connu, est, comme mot d'ordre et comme mot-clé, pour se faire connaître, en tant que résistant qui rejoint le général de Gaulle, le mot Rex. C'est la mission Rex. Mission Rex, ça veut dire quoi ? Pour Jean Moulin, qui est profondément animé de la conscience de l'importance que revêt sa mission sur Terre, et à travers laquelle, qu'il peut exercer notamment à travers ses fonctions préfectorales, devait certainement à l'époque avoir très bien compris la signification du nom de sa mission, qui consistait à rendre au peuple français toute sa dimension souveraine, sa dimension de royauté, Rex. Et donc, il part. Il part à Londres et il rencontre le général de Gaulle. Le général de Gaulle accrédite Jean Moulin auprès des autres résistants. C'est de Londres que se feront la centralisation et la coordination de l'action de résistance. Arrivé en rien, comme juste simple messager des mouvements, Jean Moulin repart avec le titre de représentant personnel du général et de délégué du Comité national français. Une instance de la France libre qui tient lieu de gouvernement en exil pour la zone sud. L'ordre de mission a été microphotographié. C'est un ordre de mission qui est militaire et qui est dissimulé dans une boîte d'allumettes. Et donc, cet ordre de mission fait l'objet d'un brouillon annoté par le général de Gaulle le 3 novembre 1941, qui avait été agrandi, puisque bien sûr c'était un micro-document caché dans une boîte d'allumettes. Et là on l'a en entier, alors séparé par moments, et c'est très émouvant, il était présenté à l'exposition. Monsieur Moulin sera reçu par l'agent doc de l'action militaire. Dès l'arrivée de Monsieur Moulin en France, à son retour de Londres, une liaison sera établie entre lui-même et Doc. Monsieur Moulin reprendra contact avec les trois mouvements par l'intermédiaire de Libération nationale, les trois mouvements de résistance. Monsieur Moulin rendra compte de son voyage à ces mouvements et leur exposera l'idée du général de Gaulle, c'est-à-dire la division et le maintien. Alors on n'arrive pas à tout lire, c'est pas évident, il faut une loupe. Mais enfin, c'est le général de Gaulle qui écrit lui-même. Voilà. Ensuite, toute l'organisation est détaillée. Il y aura des groupes de choc. Il y aura des saboteurs bien placés. Une organisation de renseignement et de contre-espionnage. Des opérations d'ensemble en cas de débarquement venu d'Angleterre. Des opérations locales réalisées en conjonction avec des éléments venus d'Angleterre. Des opérations locales réalisées avec des éléments... C'est pas toujours facile à lire, parce que c'est écrit en petites pattes de mouche. Donc, mais enfin bon, c'est quand même très émouvant de voir des documents pareils exposés. Pardon. Des opérations locales réalisées avec des éléments pris sur place, avec matériel et moniteurs envoyés de Londres, l'utilisation des forces militaires pour prise de possession des pouvoirs civils, puis à étudier par la suite. Alors le budget, c'était marqué qu'il est le budget, le général de Gaulle a pris soin de noter que le budget serait à étudier par la suite. Simplement, lorsque Jean Moulin s'en va, il a une somme d'argent importante dans la poche, qui va l'aider à financer son œuvre auprès des trois mouvements. Le général de Gaulle a bien noté aussi qu'il allait falloir le l'utilisation des forces militaires pour prise de possession des pouvoirs civils, et donc il dit que le budget sera étudié par la suite suivant les besoins. Les Anglais ont beaucoup aidé à financer, hein, bien entendu. Une certaine somme est remise à Jean Moulin pour couvrir les besoins urgents des trois mouvements. Donc au départ, Jean Moulin est envoyé à Londres pour aider à la coordination des trois principaux mouvements de résistance d'alors. Ceux qui ont lu les mémoires du général de Gaulle sur les années 39-40 le savent. Ces années-là ont été, le savent très bien. C'est principalement si les forces du débarquement anglo-américain qui sont intervenues sur les côtes de Normandie et les côtes de Provence ont été très importantes, bien entendu pour libérer la France, est fondamentale. Il faut savoir que sans la résistance française à l'intérieur des terres du territoire français, il n'y aurait pas eu de libération. Parce que ces forces de résistance ont beaucoup aidé, d'abord en matière d'espionnage et de pour savoir ce qui se passait exactement, où étaient les Allemands, où il fallait attaquer et où il fallait pas aller. Et puis elles ont beaucoup aidé en sabotant les forces allemandes par du petit travail au jour le jour, du petit travail méticuleux qui se fait de manière ponctuelle, action après action, un train qu'on fait dérailler ici, par ici, un siège de la Gestapo ou de l'armée allemande qu'on fait sauter par là, une ou deux personnalités de l'armée allemande qui commandent et qui gênent, que l'on supprime. Voilà. Donc tout ça, ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup contribué à préparer le territoire français. Il y a aussi une autre chose qu'on apprend quand on lit les mémoires du général de Gaulle, ce qui est vraiment très important à lire pour comprendre, c'est que, au départ, il n'était pas donné que le débarquement allait se faire en France. C'était les états-majors américains qui commandaient, avec le général, notamment le général Eisenhower, les Américains avaient mis un peu les Français de côté. Vous comprenez, chers auditeurs, à l'époque, nous les Français, nous étions des gens qui avions été envahis et qui avions collaboré avec le gouvernement allemand, avec l'Allemagne. Et donc, on n'était pas dans les petits papiers du tout. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle pour mettre en avant l'existence du gouvernement de la France libre, l'existence d'une France libre qui était cachée à Londres, mais aussi dans les réseaux de résistance un peu partout en France et dans le maquis, les Américains n'auraient jamais fait attention aux Français. Ils n'auraient jamais tenu compte des Français et la France aurait ensuite été sous domination anglo-saxonne complète. Et donc le général de Gaulle a fait valoir ses positions, il a fait valoir qu'il existait, qu'il y avait un autre gouvernement français qui était le gouvernement de la France libre, que c'était le seul gouvernement, même s'il était à Londres, le seul gouvernement français dont il fallait tenir compte. Et puis il a beaucoup assisté auprès du général Eisenhower, mais aussi auprès des Anglais, parce que les Anglais, pour eux, c'était pas donné non plus, c'était des Anglo-Saxons aussi, c'était pas donné non plus que la France puisse être libérée comme ça, que le débarquement se fasse en France, ni que le gouvernement du général de Gaulle soit reconnu. Et il a beaucoup œuvré pour que le débarquement se fasse justement par la Normandie et par la Provence, parce qu'au départ on avait prévu de le faire arriver en Italie, en Yougoslavie, ou je crois en Grèce, enfin dans ces pays-là, enfin c'était plutôt du côté des États baltes, et pas du tout en France. Et le général de Gaulle a réussi à convaincre Eisenhower, il s'entendait très bien avec Eisenhower, hein, les grands hommes s'entendent toujours bien entre eux, même qu'ils sont... Ils ne défendent pas des intérêts communs. Et là, le général de Gaulle a réussi à convaincre le général Eisenhower de faire débarquement en France et et aussi quelque chose de très important, de mettre la France au même rang que l'Angleterre et les États-Unis dans les forces alliées. Il y avait une coalition des forces alliées des trois pays qui, notamment après le débarquement, a siégé à Reims dans l'actuel musée de la Reddition, là où l'Allemagne a capitulé officiellement, et les forces alliées à tripartite, à trois nationalités, avaient la France parmi elles grâce au général de Gaulle. Autrement, ça ne serait pas arrivé. Il n'aurait pas fait partie des trois alliés. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc tout ça, c'est parce qu'il y a tout un travail qui a été fait, qui date de l'occupation elle-même, de 1940, où on commence à s'organiser pour lutter contre l'occupation. C'est un travail de longue haleine, mais les Français ont beaucoup contribué à libérer leur pays. Il n'y a pas eu que les Américains. Donc voilà, et donc Jean Moulin part de Londres avec cet argent en poche. Il est représentant personnel du général et délégué du Comité national français, instance de la France libre, qui tient lieu de gouvernement en exil pour la zone sud. Donc il y en avait d'autres. Le document est micro-photographié, dissimulé dans une boîte d'allumettes. Jean Moulin part avec. Donc au musée, il y a un parachute, les fragments d'un parachute, c'est le parachute de la mission Rex qui était présenté lors de l'exposition. Des fragments de parachute et de câbles qui rendent compte du début de la mission Rex. On présente les différents lieux de la présence de Jean Moulin à Lyon grâce à une cartographie qui associe une adresse, un témoignage et un visage. L'un de ceux des jeunes membres de la délégation réunis par Daniel Cordier à partir de l'été 1942. Le succès de la mission de Jean Moulin, salué par De Gaulle et contesté par les chefs de certains mouvements dans le contexte bouleversé de l'année 1943, s'exprime pleinement à l'occasion de la première réunion du Conseil de la Résistance. Et donc, en objet phare, on présentait l'exposition la table autour de laquelle les membres du Conseil national de la Résistance se sont réunis rue du Four à Paris le 27 mai 1943. On aurait aimé y être si on pouvait reculer dans le temps. Je crois que c'est la première scène historique à laquelle je choisirais d'assister en personne. Chers auditeurs, chères auditrices, on va interrompre un petit peu cette émission pour écouter une musique puisqu'on est dans la Résistance. Le 1er juin, dans quelques jours, commencent les fêtes du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Et ça, en Provence, je ne sais pas si tu avais regardé sur Internet. Je propose que nous écoutions tout de suite la chanson de la Résistance française.
Montée de la mine des camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ouvrez les tueurs à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Ouvrez saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine?
C'est très beau moment. Merci infiniment, Camélia.
Merci.
Vous aviez déjà chanté ce chant des libertés. C'était pendant la marche des libertés. Justement, il avait toute sa place ce soir au Bataclan. Vous avez tenu à le chanter.
Oui, c'est un chant très important pour l'histoire de notre pays, qui est évidemment une ode à la liberté, mais qui est surtout un chant qui donne beaucoup de force au peuple. Et je crois que la liberté se défend plutôt de ce coin-là, ouais.
Merci beaucoup, Camélia.
Merci.
Merci infiniment.
Voici, donc c'était le chant des partisans, le chant de la résistance française. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté. Il a été repris par Sins Emilia, un groupe de reggae dans les années 2000. Si vous voulez, on le mettra à la fin, si on a le temps. Voilà, donc il faut savoir une chose que peu de gens savent. On parle d'autre chose maintenant. Donc Jean Moulin a largement contribué à fédérer les réseaux du sud de la France, les réseaux clandestins, les réseaux de résistance. Mais c'était, il faut savoir une chose, c'est que Jean Moulin, c'était un artiste. Il était préfet, il était dans la haute administration, mais en même temps, il peignait et il dessinait. Voilà. Donc, et il s'est servi de son art, justement, pour camoufler ses activités de résistant. Donc, il n'est plus préfet à partir du moment où il est allé à Londres. Et il peint, il dessine, il se fait passer pour un collectionneur d'art, un acheteur de tableaux. Et il inaugure à Nice une galerie qui s'appelle la Galerie Romanin, avec l'aide d'Antoinette Sasse et de Colette Ponce. Au début de l'année 1943, c'est en fait une couverture, mais en même temps, c'est qu'une couverture. Jean Moulin est passionné par son activité de marchand de tableaux. Et il a adressé de nombreux courriers à Colette Ponce, qui est exposée à l'exposition, où il parle de sa passion. C'est un collectionneur d'art aiguisé dans ses choix par le poète Max Jacob, qu'il a rencontré en Bretagne. Il s'est lié avec des marchands de tableaux comme les frères Bernheim et le galeriste Paul Petrides. Dans les années 1930, on lui a offert l'opportunité d'acquérir des toiles de maîtres comme Raoul Dufy, Marie Laurencin, Moïse Kissling, Maurice Utriot ou encore Suzanne Valadon. Ces toiles, donc ce sont des, d'ailleurs, vous remarquerez que ce sont des peintres qui étaient très présents aussi dans la galerie du grand-père de Anne Sinclair, qui avait une galerie à Paris. On lui a volé ses tableaux et sa galerie. Il est ensuite parti à New York. Il s'est évadé. Et on a, dans sa biographie, Anne Sinclair en parle. Donc c'était les mêmes peintres, ils sont très connus, Utriot, Valadon. Ces toiles figurent sur les murs de la Galerie Romana à son ouverture. Colette Ponce, aidée d'Antoinette Sass, puise dans la collection personnelle des tableaux modernes de Jean Moulin pour achalander la galerie à son ouverture. Voilà, donc il y avait des dessins de Jean Moulin qui étaient exposés à l'exposition. Pour ceux qui le souhaitent et souhaitent voir ces dessins qui sont très chouettes, c'était un satiriste au même titre que Cabu, un humoriste. Et si vous voulez voir ces dessins, je pense qu'il doit certainement y avoir un ouvrage au Musée de la Résistance lyonnais, au CHRD, qui est vendu, sur lequel est relaté et pris en photo, ou sont pris en photo et relatées toutes les pièces qui ont été présentées à l'exposition, dont les dessins de Jean Moulin. Il avait rêvé d'une carrière artistique, il est devenu la gloire du corps préfectoral, mais il n'a jamais cessé d'être un artiste, adoptant par souci de réserve à l'égard de sa charge le pseudonyme de Romanin, qui rappelle son attachement à la région Saint-Andiolaise. Il a été relevé de ses fonctions de préfet le 22 novembre 1940. Il s'est installé dans la propriété familiale de Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône. Il indique la profession de cultivateur à la mairie de Saint-Andiol quand il arrive, puisqu'il est revenu de Londres début 1942 comme représentant du général de Gaulle, chargé de la coordination des mouvements de résistance de zone sud. Et il lui faut endosser une couverture plus crédible pour justifier ses nombreux déplacements en zone sud. Donc au départ, il dit qu'il est cultivateur. Mais comme il est souvent absent, ça ne passe pas, ça ne colle pas avec l'éventualité d'un interrogatoire serré par la Gestapo. Quand on est cultivateur, on est tout le temps chez soi, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de services de remplacement. De surcroît, dans un pays où beaucoup d'hommes étaient mobilisés dans l'agriculture, donc ça ne colle pas. Donc il va être obligé de trouver une nouvelle fonction et il va devenir marchand de tableaux et artiste. Marchand de tableaux et artiste, et donc ça deviendra sa nouvelle fonction, celle qui justifie pleinement qu'il puisse se déplacer souvent, surtout que depuis sa convocation en mai 1942 à Vichy par Georges Hilaire, secrétaire général de Pierre Laval, qui lui a proposé une préfecture importante, et son refus catégorique, eh bien il est davantage surveillé. Il a refusé ce poste de préfet parce qu'il dit qu'il est contre la collaboration et contre la révolution nationale et il ne peut pas faire, il refuse. Et donc à partir de ce moment-là, il est très surveillé. Il donc, doit donc se trouver une couverture officielle et donc il devient marchand de tableaux. Il lui vient à l'esprit. Il lui est venu à l'esprit que c'était la seule façon pour lui de couvrir son action de résistant, exigeant des allées et venues incessants. C'est aussi un choix de passion pour l'art. Dessinateur dès son plus jeune âge, il n'a cessé de pratiquer comme peintre caricaturiste, très prisé des journées humoristiques. Chef de cabinet du préfet à Chambéry, il poursuit son travail d'artiste sous le pseudonyme de Romanin jusqu'à devenir un caricaturiste apprécié des journaux humoristiques. En fin 1940, il choisit comme couverture, enfin, la proposition d'artiste peintre sous les pseudonymes de Jacques Marchand ou Jacques Martel, toujours muni de son matériel de peinture lors de ses déplacements. Il griffonne des dessins, dont le fameux dessin « Le Vallon des Auffes ». Et fin septembre 1942, alors qu'il attend en Saône-et-Loire un avion pour partir à Londres, chaudement vêtu d'une canadienne et portant un béret, installant son chevalet au bord de la Saône, il est véritablement peintre, même si c'est un alibi. Il s'en est beaucoup servi. Malheureusement, Jean Moulin est arrêté le 21 juin 1943. Il figure sous le registre des écrous de la prison de Montluc sous le nom de Jacques Martel, peintre décorateur, qualité qu'il défend jusqu'au bout, griffonnant la caricature de son bourreau, Klaus Barbie. Pour nos chers auditeurs qui s'y intéresseraient, Klaus Barbie a une exposition fait l'objet depuis le début de la création du CHRD à Lyon, qui est d'ailleurs, je le signale, dans les locaux de la Gestapo. Son procès est retranscrit toute la journée. Dès que le musée de la Résistance est ouvert, on peut aller aller voir ce film dans une salle de cinéma où on retrace le procès de Klaus Barbie en boucle. On y voit des images très dures de gens qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu, et de Klaus Barbie qui est présent lors de son procès. On le voit se défendre, on le voit parler, on le voit rire, voilà. Et donc, Klaus Barbie a torturé Jean Moulin. Jean Moulin l'a représenté sur ses dessins. Voilà. Pour Jean Moulin, l'art, c'est sa vie. En 1989, Daniel Cordier, donc qui était le fédérateur des mouvements de résistance au niveau national, et qui donc a eu affaire à plusieurs reprises à Jean Moulin, écrivait « Le véritable journal intime, soigneusement codé de Jean Moulin, ce sont ses dessins. Leur contenu, leur évolution, apprennent plus sur sa personnalité que la plupart de ses lettres. » Voilà. Il faut Jean Moulin est arrêté donc le 21 juin 1943 à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, chez ses amis. Beaucoup pensent qu'il a été dénoncé. Son entrée au... Alors, il meurt le 8 juillet 1943 dans le train qui le déporte en Allemagne, sans avoir livré le moindre secret. Et il a été torturé au siège de la Gestapo à Lyon, dans le local du CHRD. Son entrée au Panthéon en 1964 immortalise dans la mémoire collective française le symbole intemporel de la résistance. Voilà. Il a été arrêté dans la maison du docteur Frédéric Dugoujon à Caluire-et-Cuire le 21 juin 1943. Comme il va y avoir le 80e anniversaire du débarquement en France, je propose qu'on fasse d'autres émissions sur la résistance et sur cette période-là, et sur le débarquement aussi. Donc la semaine prochaine, ce sera aussi l'objet de notre prochaine émission. Et à ce moment-là, je passerai la chanson des résistants, version Sins Emilia. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.